histoire et conte.
La rupture. La nuit tombée, je me dirigeais vers mon rendez-vous en prenant quelques risques pour arriver à l'heure. La pensée de Sophie m'accaparait. Comment allais-je lui annoncer ma décision de rompre ? Je ne l'aimais plus, bien sûr, mais depuis quand ? Je l'avais désiré fortement avant le début de notre relation, mais très vite, mon ardeur était retombée comme des blancs en neige. Je la connaissais par cœur. Elle m'accueillerait par « Bonsoir, Philippe, tu es en retard. » Elle aurait un petit rire de fauvette, comme pour atténuer son reproche. Elle m'embrasserait sur les lèvres, puis me proposerait une tasse de thé. Alors, elle me demanderait comment ma journée s'était déroulée, si j'avais eu de nouveaux contrats, des clients intéressants. Et l'ennui s'installerait pour une soirée de plus. Un client m'avait appelé une heure plus tôt et j'avais résolu de faire un crochet chez lui avant de me rendre chez Sophie. J'étais sorti des routes ordinaires et je venais d'emprunter un chemin de terre qui n'en finissait pas. Des épicéas hauts comme des nefs gothiques transformaient la voie en tunnels sombres et inquiétants. « À la croix, prenez à gauche !» m'avait dit mon interlocuteur. Je faillis la manquer. C'était une petite croix en granit, de style breton, complètement déplacée en ces lieux. J'avançais encore de 200 mètres sur une allée de gravier, puis aperçus une lumière. J'eus à peine le temps de distinguer un homme et une femme vêtus de grands manteaux et de chapeaux étranges qui quittaient l'allée principale pour une autre. Ils ne parurent pas s'inquiéter de ma présence. Devant une petite maison à colombage au toit de chaume, je me garai. Une lampe brillait près de l'entrée, éclairant faiblement une lourde porte à moulure ancienne. Un mot y était épinglé. « Je suis au château, je reviens dans 5 minutes. » En attendant que mon client se montre, je fis le tour de la bâtisse. Il m'avait appelé pour dessiner les plans d'un agrandissement du bâtiment. Il voulait ajouter une tour en façade est dans le style de la maison. Celle-ci devait avoir plusieurs siècles. Construire une tour en respectant l'aspect des colombages ne serait pas facile. Il vaudrait mieux utiliser la pierre, mais serait-il d'accord ? Mes réflexions et l'inspection des lieux m'avaient déjà pris une bonne demi-heure. Las d'attendre, je décidai de chercher ce château. Empruntant l'allée par laquelle avaient disparu les deux personnages entrevus plus tôt, je parvins au bout d'une centaine de pas à une grande pelouse au bout de laquelle se détachait la masse d'une construction. Un manoir plutôt qu'un château. Son style Louis XIII en briques rouges était typique. Il possédait un corps central à grandes baies vitrées, flanqué de 2 ailes plus basses. Une porte latérale était entr'ouverte et je me faufilai dans la place. C'était une cuisine assez vétuste, une immense cheminée noire de suie occupant tout un mur. Je jetai un rapide coup d'œil sur les casseroles en cuivre et les grandes poêles en fer pendues à des gros clous, puis, comme un cambrioleur, poursuivit ma visite clandestine. Les lieux étaient déserts, et je n'avais aperçu pour l'instant aucune lumière. Seuls les pâles rayons d'une lune décroissante guidaient mon chemin à travers le damier des pièces. Sans réfléchir, je grimpai un petit escalier en hélice et parvint à l'étage supérieur. Et là, enfin, du bruit. Des voix, de la musique, des pas martelant le sol, et peut-être mon client. Je poussai la porte pour pénétrer dans une immense salle. La pièce était éclairée par des chandeliers et des bougies. Elle donnait sur la façade arrière du bâtiment, et, pour cette raison, je n'avais pas pu la voir de l'extérieur. Des gens dansaient, d'autres discutaient, verre en main. C'était un bal, mais un bal étrange. Un bal costumé, sans doute. Ah, monsieur le comte, on vous attendait. Madame commençait à s'inquiéter. Un petit homme, en costume de valet, avait prononcé ces mots. Il paraissait inquiet. Tout cela était-il un gigantesque canular ? Je continuai à parcourir la salle du regard. Les murs étaient ornés de tableaux représentant des scènes de chasse, des paysages champêtres ou des portraits de notables de siècles passés. Une tapisserie immense recouvrait le mur à ma gauche. Elle représentait une scène de château, une femme coiffée d'un hennin filant la laine dans un décor onirique. Une bonne cinquantaine de personnes occupaient la salle. Certaines m'étaient vaguement familières malgré leur costume anachronique. Brutalement, j'eus un choc. Là, tout au fond, parlant avec un jeune homme qui me présentait son dos, se tenait Sophie. Sophie, ou du moins son sosie. Elle portait une robe longue à décolleté comme dans les pièces de Molière. Elle était resplendissante. « Qui est cette jeune personne ?» demandai-je au valet. « Mais, monsieur le comte, c'est votre fille, c'est Virginie. Il est vrai que les chandelles baissent. Je vais demander à ce qu'on les change. » À cet instant, l'interlocuteur de la jeune fille se retourna. J'eus un deuxième choc. C'était le portrait de cet imbécile de Louis, ce vaniteux, ce prétentieux, ce pédant de Louis de la Marlière. C'était donc lui qui avait organisé le coup. Je comprenais mieux maintenant. « Et celui qui parle à ma fille ?» dis-je d'un ton sec en rentrant dans le jeu du valet. « Qui est-il ? » ?»« Que monsieur le comte nous pardonne. Nous n'avons pas pu l'empêcher de pénétrer. Et, lorsque votre fille l'a vu, elle nous a interdit de le chasser. Albert, un fils de maréchal Ferrand, courtisan Virginie de Roquebleu, c'est effectivement une honte. Voulez-vous qu'on le jette dehors ? Un groupe de musiciens installés au fond de la salle sur une petite estrade entama un air baroque. C'était un menuet. Les hommes et les femmes se séparèrent, puis chaque cavalier, faisant face à sa cavalière, la danse débuta. Je crus reconnaître le couple dont j'avais juste aperçu la silhouette fuyante en venant. Il me rappelait vaguement des souvenirs. Où les avais-je déjà vus ? Lui évoluait très droit, presque cambré, avec un calme et une maîtrise impressionnantes. Elle possédait la grâce et la noblesse d'une muse. C'était fascinant. Celle qui avait été appelée Virginie dansait avec Albert. Ils souriaient, se frôlaient, se murmuraient à l'oreille des confidences qu'on imaginait chargées de passions amoureuses. J'enrageais. La colère, la jalousie, une sorte d'humiliation même m'emportaient. Il fallait arrêter ça sur le champ. Trouver l'interrupteur de la pièce et stopper net cette mascarade de mauvais goût. À grands pas, je me dirigeais vers les danseurs. J'allais attraper cet Albert et le flanquer par une fenêtre. « Monsieur le comte, ah, monsieur le comte, je vous trouve enfin !» Un rougeau à l'air ahuri me barrait le chemin. Je levai la main pour l'écarter d'un geste. « C'est monsieur Carpentier, le père d'Albert. Il demande la permission de vous parler quelques instants. Je crois qu'il voudrait vous entretenir de son fils. » Carpentier. J'étais en train d'oublier mon rendez-vous. Ravalant toute ma fureur, je suivis le nouveau venu vers la chaumière où j'avais garé ma voiture. Le mot avait disparu sur la porte maintenant ouverte et mon client m'attendait, les mains sur les hanches. « Bonsoir, monsieur Lhermier. Désolé pour ce contretemps. J'ai vu votre voiture et on vous cherche depuis un bon moment. » Je m'étais absenté quelques minutes pour aller vérifier un volet au vieux manoir. Je craignais qu'on ne l'ait forcé et que des squatteurs ne s'y soient introduits. Ce château vous appartient ? Oui, enfin, ce n'est qu'une ruine. Un jour, qui sait, je parviendrai à lui redonner vie. Je demeurai encore quelque temps avec mon client à prendre des notes sur son projet. Il était apparenté à une femme pour laquelle j'avais travaillé il y a quelques années et pour cette raison m'avait choisi comme architecte. Si vous vous décidez à restaurer le manoir, pensez à moi, lui dis-je en partant. Cela m'intéresserait. Je remontai dans ma voiture et, encore troublé par ce que je venais de vivre, me hâtai vers Courtelise où habitait Sophie. Plus je repensais au bal, plus j'étais persuadé d'avoir rêvé. Une hallucination. La vue de ce manoir aux proportions parfaites, vestige d'un temps révolu, avait dû déclencher dans mon imaginaire un processus qui m'avait submergé un moment. Je décidai de différer le cours de mes réflexions, car la vision de Sophie recommençait à m'envahir. Rompre. Mais comment ? Finalement, l'avais-je jamais aimé ? Les préludes de notre relation me revinrent en mémoire. Louis de la Marlière avait alors des vues sur elle, j'en étais persuadé. Cela m'avait été insupportable. J'avais tout fait pour la séduire. Sachant que Louis l'invitait au mariage de sa cousine, je lui avais proposé un voyage à Venise et l'avais emporté sur lui. Nous avions passé quelques jours à déambuler entre les palais Renaissance, fait le tour des îles, Murano, Burano, Saint-Georges, l'Éden. De retour ici, tout était devenu fade. Elle avait cessé de m'intéresser, mais elle s'était mise à m'aimer, et sincèrement. Je n'avais jamais eu le courage de la quitter et notre relation s'éternisait, moribonde, figée par mon comportement hypocrite et son attitude ingénue. Elle ne soupçonnait rien des véritables sentiments qui m'habitaient. J'allais la détruire. Maintenant, mes idées s'éclaircissaient. Mon lien avec elle ne reposait-il que sur des bases fausses ? La rivalité, la jalousie, la vanité, mais pas l'amour. Elle n'avait été pour moi qu'un enjeu, un moyen d'écraser ce crâneur de la Marlière. J'avais gagné, et elle était devenue un poids dans ma vie. Je m'étais construit une image d'elle terne et sans relief, et ne la regardais ni l'écoutais plus. Une place était libre devant chez elle. Je rangeai la voiture et montai. « Tu es en retard, » me dit-elle avec un sourire indulgent. Elle émit un petit rire, comme une source de montagne, m'aida à retirer mon manteau, puis m'embrassa discrètement les lèvres. Elle sentait bon, c'était curieux. Pour la première fois, cette scène ne m'avait pas agacé. « Désires-tu une tasse de thé ?» Elle portait une jolie robe en flanelle, couleur d'automne. J'admirais son décolleté. J'observais à la dérobée son visage. Les traits étaient lisses, son regard étonnamment pur. Ses cheveux châtains clairs étaient attachés avec un ruban bleu, en harmonie avec la couleur de ses yeux. Virginie était bien sa jumelle, mais avec quelques années de moins. Pour la première fois, je perçus toute la vie qui coulait en elle. J'eus envie de la prendre dans mes bras et de la serrer contre moi. « Quand tu m'as téléphoné à midi, tu avais l'air inquiet, commença-t-elle. « Qu'avais-tu à me dire de si important ?» Je lui pris doucement la main. « Je crois que je t'aime, » murmurai-je.